le corps, il doit être à 100%. La santé, elle doit être à 100%. Alors, on a une autre, complètement une autre relation avec la santé. C'est un peu, hyper important de toujours pas avoir des blessures, être en bonne santé. Et puis, parce qu'à la fin, on peut s'entraîner comme on veut. Si le corps, il n'est pas à 100%, tu ne vas pas faire tes résultats que tu veux.
On a tendance à l'imaginer un peu linéaire. On naît, on vit, on meurt. Mais dans ce grand intervalle qu'on appelle la vie, le chemin n'a rien de rectiligne. On aime, on pleure, on trébuche, on se relève, on bifurque, on affronte, on rit, on apprend. Sur cette route sinueuse, notre seul véhicule, c'est lui, notre corps. Celui qui nous porte et nous déploie, celui qui nous permet des exploits, que ce soit de donner la vie ou de gravir l'Everest. Mais parfois, sa santé s'enraye et elle vacille. C'est alors que s'ouvrent une ou plusieurs parenthèses, entre lesquelles il va falloir l'écouter, comprendre les maux qui l'affaiblissent, les traiter ou apprendre à vivre avec, mais quoi qu'il arrive, un peu autrement que sans. Un sentier sinueux qui surgit au milieu de la route et sur lequel on vous emmène avec nous dans ce podcast. Que se passe-t-il quand la maladie, l'accident ou même des événements plus joyeux, comme la naissance, ouvrent une parenthèse dans nos vies ? Ce podcast vous est proposé par Hirst London, les cliniques Boisset et Cécile et le quotidien 24 heures. J'espère que vous avez passé un bon été, que vous êtes reposé, peut-être même que vous avez passé des vacances sportives. Dans cet épisode, nous allons justement aborder l'importance du suivi médical, mais pour les athlètes d'élite. Un indispensable pour maximiser leur potentiel tout en minimisant les risques de blessures. Mujinga est la Suissesse la plus rapide de l'histoire et la première à avoir brisé la barrière mythique des 11 secondes sur 100 mètres. Elle est aussi médaillée du championnat du monde, rien que ça. Alors pour elle, évidemment, son corps, c'est son capital réussite. Je lui ai tendu le micro à son retour des JO de Paris et juste avant Athlétissima.
C'était vraiment magnifique, la compétition tout autour, le village, un stade plein comme ça, c'est vraiment pour ceux qu'on s'entraîne. Et puis la compétition, je ne suis pas contente à 100% avec tout, mais le grand but de refaire une finale sur 100 mètres, ce qui est quand même pour moi un peu le plus important, j'ai réussi. Alors c'était vraiment très bien passé.
Pour accompagner ces performances, une des clés pour les athlètes, c'est un suivi médical de qualité. Le docteur Stéphane Borloo, spécialiste en médecine physique et réadaptation au Centre de médecine du sport et à la clinique Boissert.
La différence entre un sportif d'élite et un sportif, on va dire, amateur de bon niveau, c'est finalement plus l'attente du sportif d'un point de vue professionnalisation de la prise en charge. Pas seulement de la prise en charge médicale, bien sûr, mais de la prise en charge générale avec son entourage. Il va avoir du monde autour, il va avoir un entraîneur, il va avoir un préparateur physique, un diététicien, un psychologue. Donc il y aura du monde qui va être autour. Et ce sera surtout cette interdisciplinarité qui va différer par rapport à un autre sportif. Après, d'un point de vue purement médical, la problématique ou le diagnostic vont être souvent sensiblement pareils. Et la prise en charge purement médicale va être sensiblement pareille. On ne va pas faire une différence entre un amateur sportif de haut niveau et un sportif professionnel.
Ce qui est vraiment le plus difficile ou un peu le plus spécial par rapport aux autres qui ne sont pas des sportifs de haut niveau, c'est vraiment le corps, il doit être à 100%. La santé, elle doit être à 100%. Alors, on a complètement une autre relation avec la santé. C'est un peu hyper important de toujours pas avoir des blessures, être en bonne santé. Et puis, parce qu'à la fin, on peut s'entraîner comme on veut. Si le corps, il n'est pas à 100%, tu ne vas pas faire tes résultats que tu veux.
Alors, il y a probablement une pression qui est un petit peu différente de fait de la demande et des attentes des sportifs professionnels qui vivent de leur sport. Donc ils vont gagner des sous en fonction de ce qu'ils auront comme résultat. Donc bien entendu, quand il y a une échéance, quand il y a une compétition, ils vont être beaucoup plus dans l'attente d'avoir un résultat rapide. Maintenant, le protocole, on ne peut pas le modifier. Un protocole médical, ça reste le temps qu'il faut. Le corps a besoin d'un certain temps pour guérir. Il y a des gens qui vont plus vite, il y a des gens qui vont plus lentement. Donc on sera peut-être un petit peu plus proche dans le suivi d'un athlète pour voir à quelle vitesse il évolue, si l'athlète est professionnel, qu'il y a une attente. Si on est dans une période où on a du temps, on va laisser le temps habituel du protocole. Quand on a peu de temps, qu'on est en phase de compétition, on va réévaluer l'athlète un petit peu plus rapidement dans l'espoir qu'il ait évolué suffisamment vite pour le remettre au sport plus rapidement mais ce n'est pas le protocole qui est accéléré, le protocole reste le même, c'est juste qu'on suit l'athlète, et si par chance l'athlète a évolué un petit peu plus vite que ce qui était attendu, on va le remettre au sport plus vite. Mais en absolu, la nature humaine est la même chez un athlète professionnel que chez un sportif de haut niveau ou un sportif amateur, donc le temps de récupération du corps va être le même.
Dans la vie de tous les jours, c'est déjà clair juste d'éviter tout ce qui a un tout petit peu de risque. Partout, on pourrait se casser un truc ou même juste si on tombe à quelque part et puis on se tape le genou après, même s'il n'est pas cassé, juste un peu gonflé, puis on ne peut pas s'entraîner pendant, je ne sais pas, 4-5 jours, c'est déjà un impact. Alors vraiment, de juste faire attention le plus possible et vraiment juste garder le corps le mieux possible en bonne santé. Et puis aussi, à part des autres choses comme pas tomber malade. À la fin, si tu perds une semaine parce que tu étais malade, c'est quand même une semaine. Alors, ça veut dire que je dois vraiment faire attention à tout ce que je fais. Et surtout, si ça, on approche les championnats, là encore beaucoup plus. Alors, par exemple, il y avait aussi une fois un cas où, par exemple, ma petite sœur et moi, on n'est pas allés à l'anniversaire de mon neveu parce qu'il y avait plein d'enfants et puis tout le monde était un peu en train de tousser. Et puis, comme c'était 2 semaines avant un championnat, on a décidé de rester à la maison. Alors, c'est aussi un petit peu des petits trucs comme ça que des fois, tu peux pas faire parce que le sport est plus important dans le moment. Alors, c'est quelque chose qui est quand même différent que quand ton corps, ce n'est pas ton outil de travail.
Dans l'athlétisme, on va surtout rencontrer des lésions de surcharge. Ce n'est pas un sport qui est tellement traumatogène en termes d'accidents. On en a vu quelques-uns au JO, mais en général, c'est plutôt des lésions de surcharge. Donc, on peut avoir des fractures de fatigue, on peut avoir des tendinopathies, on peut avoir des lésions musculaires, mais peu finalement de gros traumatismes type entorse, commotion cérébrale qu'on va retrouver dans d'autres sports.
J'ai eu plusieurs blessures. Heureusement, jamais vraiment une énorme blessure qui a fait que je ne pouvais pas faire une année ou quelque chose comme ça. En 2019, je me suis cassé les ligaments à l'entraînement. Et puis, ce qui était vraiment super dans cette situation un peu difficile, c'est que j'ai vraiment encore à l'entraînement, j'ai direct appelé mon médecin à Berne. J'ai direct raconté qu'est-ce qui s'est passé et puis il a direct pu me donner une diagnose, dire ce qu'on pouvait faire. Il a aussi fait des piqûres dans la blessure pour que ça guérit plus vite. Et puis le médecin a direct réagi, il a vu aussi que c'était vraiment important que je puisse gagner chaque jour et puis que la blessure, ça dure vraiment pas trop longtemps. Il a aussi vraiment pu me donner des conseils, comment je peux faire pour les entraînements, qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce que je pouvais pas faire, parce que c'était ma première blessure qui était un peu plus grande. C'était pas facile pour moi parce que je savais pas trop. Tu dois de nouveau faire confiance à ton corps et puis savoir est-ce que si ça fait un peu mal, est-ce que c'est bien, c'est pas bien.
Quand on a une blessure, en fait, il y a deux questions. C'est pourquoi c'est arrivé, pour essayer d'être un peu préventif pour la suite, pour que ça ne se reproduise pas. Et puis il y a qu'est-ce qu'on va faire pour guérir. Et ce qu'on va faire pour guérir, finalement, c'est toute la mise en place du protocole de guérison avec l'adaptation de l'activité sportive. Alors, on essaie autant que possible de ne pas les arrêter complètement, mais de modifier le type d'entraînement pour diminuer la charge sur la zone qui a été lésée. Et puis, en parallèle, on travaille beaucoup avec des physiothérapeutes, avec des ostéopathes, des chiropracticiens ou d'autres paramédicaux qui vont prendre en charge l'athlète pour pouvoir retravailler la structure, la repréparer pour les charges qui vont lui être imposées par la suite.
C'était une préparation difficile pour la saison 2019. Heureusement, cette année, les championnats du monde, ils étaient, c'était quoi, fin septembre, octobre. C'était vraiment hyper tard, ce qui n'est pas normal pour l'athlétisme. Et puis, j'ai réussi de vraiment faire de bonnes performances. Au début de la saison, c'était encore un peu plus difficile. Mais à partir du milieu de la saison et puis vers la fin, c'était vraiment ouais, super. Et puis, j'ai réussi de faire une médaille avec tout ce qu'il y a eu avant. Et ça m'a vraiment encore une fois plus montré que dans le sport, oui, on est seul sur la piste, mais pour arriver de faire une médaille ou faire des bonnes performances comme ça, il faut vraiment toute une équipe. Et le staff médical est vraiment un des plus importants.
Mujinga a donc remporté la médaille de bronze au championnat du monde cette année-là. Un résultat qui est avant tout un travail d'équipe qui implique aussi les entraîneurs.
Alors chez les athlètes, surtout en Suisse, on est dans un petit microcosme, donc on connaît quand même pas mal des entraîneurs habituels. Et la chance qu'on a, c'est de pouvoir discuter avec. Donc on parle beaucoup avec les entraîneurs. de où c'est venu, qu'est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'il y a eu des modifications de l'entraînement, des modifications du chaussage, dans quel type de préparation ils sont, et on essaie par rapport à ça de voir avec eux qu'est-ce qui va pouvoir être modifié. Donc les entraîneurs sont très à l'écoute par rapport à ça, ils sont très proactifs aussi par rapport à ce qui s'est passé et voir ce qu'ils peuvent changer pour que ça ne se reproduise pas. Et puis dans le contexte plus général, alors bien sûr qu'il y a les nutritionnistes avec, ou les diététiciens avec qui on va travailler, il y a les psychologues du sport, il y a tous les préparateurs physiques au-delà de l'entraîneur principal. Donc c'est tous ces corps de métier, on essaie d'être en interdisciplinarité avec l'athlète toujours au milieu, hein, l'athlète qui se connaît bien, qui sait ce qu'il a fait, qui sait ce qu'il a modifié, qui sait quel type de chaussures il a utilisé, qui sait quelle tension il a eu, à quel moment, ils se connaissent extrêmement bien. Donc c'est toutes ces personnes ensemble qui sont autour de l'athlète et l'athlète en lui-même, en discutant, en se mettant autour d'une table, en se téléphonant, en s'écrivant, on arrive finalement à être un peu plus préventif par la suite.
Quand je me suis cassé le pied à fin 2020, début 2021, j'avais vraiment des médecins qui m'ont aidé à chaque pas, ce qui m'a donné aussi beaucoup de confiance et qui m'ont montré que oui, c'était vraiment possible de revenir à niveau et puis de faire tout ça. Et puis, c'est pas facile, mais après, dès que on a passé le petit choc et puis on a vraiment un plan, c'est de nouveau, ok, so let's go. C'est vraiment, t'es de nouveau motivé et puis tu veux juste tout faire pour revenir à ton état normal.
Dans l'athlétisme, je dirais que les sportifs ou les athlètes professionnels sont souvent plus à même d'accepter ce genre de limitation parce qu'ils savent qu'ils doivent passer par là pour pouvoir récupérer derrière. Et ils ont un objectif qui est souvent un peu à long terme. Alors bien sûr, si c'est à un mois des JO qu'on doit parler d'une immobilisation, d'un arrêt de sport, c'est bien sûr plus compliqué. Mais si on est en milieu de préparation et qu'on rencontre une problématique et qu'on dit au sportif, ben maintenant il faut changer, il faut faire de l'entraînement alternatif, on ne peut plus courir pendant un certain temps, peut-être faire du travail en piscine, du travail en vélo. C'est des athlètes qui vont être très ouverts à ce genre d'approche parce qu'ils savent qu'ils se battent pour un objectif qui est beaucoup plus loin. À l'inverse, le sportif amateur a souvent des attentes qui sont un peu au cas par cas sans avoir un calendrier de vision à plus long terme. Et du coup, chaque objectif est important. Et chaque objectif, si on ne peut pas l'atteindre, peut être vécu, disons, comme un échec.
Et le calendrier pour Mujinga, c'est aussi bien les JO que les championnats suisses ou des meetings comme Athletissima, où elle est toujours bien entourée.
J'ai la chance parce que j'ai mes physios personnels qui sont avec. Et mes physios personnels ont toujours du contact avec mes médecins. C'est pour ça, même si je ne suis pas dans mon entourage à la maison, j'ai toujours une partie qui est avec moi et surtout qui a du contact. Ça veut dire si, par exemple, il y a un problème, c'est pas toujours moi qui dois faire le lien. C'est des fois aussi juste eux qui parlent entre eux pour aussi, oui, pour que je ne dois pas faire ça moi. Alors pour ça, je dois dire, j'ai la chance que j'ai un niveau que je peux vraiment aussi prendre mon staff personnel, par exemple le physio avec, à des championnats.
Mais pour les athlètes qui n'ont pas la chance de venir accompagnés par leur équipe, il y a toujours du personnel médical lors des grandes manifestations sportives.
Alors dans les manifestations sportives, comme Athletissima, c'est que c'est un petit peu différent parce que les athlètes, on ne les connaît pas. C'est des athlètes qui viennent des quatre coins du monde, qui sont là pour une compétition, alors qui viennent un, deux jours avant et qui repartent le lendemain. Donc on ne sait pas qui c'est, on les connaît de nom, on les a vus à la télé, on les a peut-être vus d'une année à l'autre au niveau de la compétition, mais on ne les connaît pas, on ne les suit pas. Donc on doit mettre en place finalement une équipe qui va pouvoir réagir en cas de problématique d'une part urgente, s'il y a une grosse problématique, tant pour les athlètes que pour le public au niveau de la manifestation. Et puis on doit mettre en place des traitements ou des soins pour les athlètes qui sont souvent demandeurs de massages pour la récupération ou d'un ostéopathe ou d'un chiropracticien parce qu'ils ont une tension, un blocage et qu'ils veulent avoir un traitement juste avant la compétition, les jours avant, afin d'être compétitifs. Ils vont peut-être nous demander un bilan, une évaluation pour être un peu les yeux et les mains de leur médecin qui est à l'autre bout du monde, avec qui on va peut-être s'entretenir par téléphone ou par email, ou on fait juste le retour à l'athlète et puis l'athlète avec son entraîneur vont faire le retour à leur staff médical, éventuellement nous revenir avec d'autres questions, avec des demandes. Donc on est à l'écoute par rapport à ce qui est demandé par leur staff médical, quelqu'un peut aller dans leur sens ou pas, on reste libre de nos avis. Mais on est plus, disons, pour l'urgence et pour être un peu les yeux et les mains de ceux qui ne sont pas là.
Pendant les championnats, c'est beaucoup de traitements manuels. C'est beaucoup des massages ou des fois, j'ai fait aussi beaucoup le dry needling. C'est une manière aussi de traiter le muscle. C'est surtout ça, parce que pendant les championnats, c'est quelque chose qui est hyper dur pour le corps, parce que déjà juste une compétition, des fois, ça fatigue le corps énormément. Et puis pendant un championnat, je cours des fois pendant 7 jours. Le plus que j'ai fait, c'était 8 courses. Oui, je crois que c'était, oui, c'était 8 courses, je crois, en 9 jours. Alors, c'est très usant pour le corps. Et là, c'est vraiment surtout la thérapie manuelle. Et puis souvent, je fais vraiment jusqu'à 3 fois par jour la thérapie. Une fois l'après-midi, une fois avant la compétition, où la physio, elle m'aide à me préparer. Et puis après, encore une fois, après la compétition.
Une anecdote sur Athlétissima, on avait eu il y a une année, 2 ans, une perchiste qui s'était blessée à la main. Qui s'était ouverte à la main et qu'il a fallu suturer. C'est mon collègue, on est 3 collègues, le médecin du sport, c'est un de mes collègues qui l'a suturé. Et cette perchiste a quand même voulu sauter, elle n'avait pas de suture, donc elle s'est blessée juste à l'échauffement et elle a finalement gagné le saut à la perche. Donc on n'a souvent pas grand-chose à faire, c'est l'objectif, le but c'est qu'il ne se blesse pas, tant mieux si on n'a rien à faire. Et quand il y a quelque chose à faire, on peut quand même être utile. Et c'est pour ça qu'on est là.
Le sprint n'est pas tout à fait une discipline comme les autres. Il demande une gestion toute particulière de l'intensité et de la récupération.
C'est très particulier, surtout si on compare avec des autres sports, parce que comme c'est très court et puis on veut que notre corps il arrive vraiment à être à ses 100% pendant ces 11 secondes ou 22 secondes sur 200 mètres, on a des entraînements plutôt qualitatifs que quantitatifs. Et puis, je pense, plein de sportifs de haut niveau, peut-être de l'extérieur, ils diraient « Ah, mais c'est pas beaucoup ». Et il faut dire aussi, sur le papier, c'est souvent pas beaucoup, mais c'est très intense. Alors, chaque entraînement, on essaie vraiment de pousser le corps au maximum ou vraiment avoir ces courses ou l'entraînement où on peut arriver vraiment à ce maximum. Et c'est pour ça qu'on a aussi énormément de récupération, ce qui est surtout différent avec des autres sports plus répétitifs. Par exemple, moi, je m'entraîne 6 fois par semaine, juste une fois par jour. Avant les championnats du monde en salle en 2022, j'ai fait un entraînement du overspeed sur vitesse, où on a une machine qui nous tire, et puis après, en fait, ça te permet de courir plus vite que ce que tu es capable, ce qui est plus proche de la vitesse de la compétition. Et puis j'ai fait une fois un entraînement, et puis j'ai fait 3 fois 50 mètres. C'était vraiment tout, 3 fois 50 mètres. Et je suis rentrée à la maison, et puis j'étais juste KO pendant 4 jours. J'ai eu un jour de pause après 2 jours après, j'étais à l'entraînement, et puis mon pulse, il montait hyper vite. C'est tellement intense pour le corps que tu as besoin vraiment aussi beaucoup plus de pause. C'est pour ça qu'on a vraiment beaucoup moins de quantité, mais énormément de qualité, ce qui fatigue presque plus le système nerveux que vraiment les muscles ou le corps comme ça.
Des bilans réguliers aident toutefois à ajuster la préparation, surtout pour les compétitions majeures.
Ce qu'on essaye de faire avec les athlètes en Suisse, c'est d'avoir une consultation annuelle au niveau médical pour déjà les connaître, savoir qui est qui sache qui on est aussi, savoir qu'on est à leur disposition quand il y a besoin. On essaie de les voir dans les 48 heures quand ils ont une blessure sur le reste de l'année. Et ces visites qu'on appelle médico-sportives, c'est l'occasion de discuter un peu de différentes problématiques qui pourraient survenir. On parle beaucoup de ce qu'on appelle le RDS, qui est la déficience énergétique dans le sport. C'est les déficits finalement qu'on pourrait avoir entre ce qu'on ingère en termes d'énergie et ce qu'on dépense de l'autre côté dans l'activité sportive. Et on sait que ce déficit relatif peut poser beaucoup de problématiques sur le court terme, mais aussi sur le long terme, avec des impacts sur la santé qui peuvent être non négligeables. Donc on a mis beaucoup l'accent là-dessus ces dernières années, mais on va aussi parler de dopage, on va aussi parler de prévention, d'hygiène de vie, etc. Donc on essaie de prendre du temps pour élaborer un peu tous ces différents sujets qui prennent beaucoup de temps à parler, donc on n'arrive pas toujours à le faire sur un entretien. Et c'est pour ça que le fait de les revoir annuellement, ça permet de discuter d'autres choses, d'amener d'autres problématiques et d'autres discussions diverses et variées.
Mujinga, elle, a développé une grande capacité d'écoute des signaux de son corps en dehors de ses bilans réguliers.
Je sens toujours chaque petit truc aussi à la physio, surtout par exemple pendant un championnat. Ah, je sens le muscle là, XY. Est-ce que tu peux enlever la tension là? Et on sent vraiment un peu tout. Et puis aussi, par exemple, tout d'un coup, un peu normal, qu'il y a toujours quelque chose qui fait un petit peu mal. Et puis, ce qui est hyper important comme athlète ou que tu dois vraiment apprendre aussi pendant ta carrière, c'est toujours pouvoir gérer, pouvoir savoir est-ce que la douleur, c'est quelque chose de problématique ou c'est juste un peu d'usage et puis ça va passer. Et puis, par exemple, pour moi, c'est dès que je sens quelque chose, ça me reste dans la tête et puis j'essaye de voir est-ce que ça s'améliore. Je vais deux, trois fois à la physio, est-ce que ça devient mieux ou pas bien. Et par exemple, si je sens que ça reste ou que ça devient pire, c'est par exemple là où je réagis vite et puis je vais chez le médecin. C'est tout le temps dans la tête dès que tu sens quelque chose pour essayer de comprendre est-ce que c'est la même chose comme hier ou est-ce que c'est pire ou c'est moins bien. Je pense que c'est pas bien de trop vivre avec la peur, mais un énorme respect, je dirais. Et surtout, juste avant le championnat, comme par exemple là maintenant, juste avant les Jeux Olympiques à Paris, c'est pas une peur, mais c'est vraiment oui, je dirais vraiment un énorme respect où j'ai fait vraiment attention en plus. Quand je suis à l'entraînement, je suis hyper focus parce que je sais que des fois, il faut vraiment pas grand-chose pour se blesser. Et si c'est en hiver et t'as encore plein de temps, bon, oui, tu perds quelques semaines ou quelques mois. Mais si c'est juste avant les Jeux, par exemple, et tu te blesses, bah, c'est trop tard. Alors, je trouve, juste avant le championnat, il y a vraiment encore plus un peu ce mindset de faire attention, faire attention, faire attention. Ouais.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre Parenthèses. Vous trouverez des ressources sur la médecine du sport en lien dans le descriptif de cet épisode. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre application d'écoute préférée pour donner de la visibilité à ce podcast. Et surtout, n'hésitez pas, partagez-le et parlez-en autour de vous. Et nous, on se retrouve dans un mois.